Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr. Bonjour et bienvenue dans Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Loire et biodiversité en zone urbaine, concoctée par Alexandra Laurence-Luc et moi-même, Mélissa. Allez, on démarre d'abord par une petite balade au bord du fleuve.
Là, on est vraiment entre les deux. Quoi. On est que Magellan. On est entre ce petit coin encore un peu sauvage qui reste entre la route et l'écluse. Donc c'est un peu plus calme. Donc on est en décembre. Hein. Au niveau plantes, ça va être un peu tranquille.
Un peu limité. On va voir ce qu'on trouve.
Alors là, en venant, j'étais très étonnée parce que j'ai trouvé du millepertuis encore fleuri. À cette période de l'année, c'est juste incroyable. Mais bon, vu l'année qu'on a eue, c'est pas étonnant, puisqu'il a fait doux jusqu'à pas longtemps. Et c'est une plante qui fleurit au mois de juin. Donc d'en avoir encore fleuri aujourd'hui, ça prouve bien que voilà, l'automne a été très doux. Alors, on a de la chance parce qu'on arrive, la Loire elle est super basse, même très très basse, on voit toute la vase. Donc ça a dégagé une grosse partie des berges. Donc là, essentiellement, pour l'instant, on voit des ronces, des petites clématites. Il y a des arbres qui sont sur le bord de Loire.
Qu'ont perdu toutes leurs feuilles ou presque.
Ouais, ça y est, ça commence. Alors là, on va retrouver. Voilà, on a passé le petit coin qui était protégé. Là, on se retrouve sur le rond-point. On continue le quai Magellan, en fait.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est vraiment très atypique. On est vraiment à côté du centre, mais vraiment à 2 minutes du centre, quoi. On est juste derrière la Cité des Congrès. Donc c'est un lieu, y a plein de choses qui vont être détruites parce qu'ils vont faire tout un nouveau, un nouvel ensemble ici. Et il y a juste un peu comme la petite Amazonie en toute petite qui est là. Et voilà, il y a ce ponton, cet ensemble d'arbres qui sont quand même assez majestueux quand même, hein, ils sont hyper grands. Toutes ces plantes qui poussent, on a vu pas mal d'oiseaux qui se baladaient. Plein de plantes, évidemment beaucoup de ronces, mais début de l'EIA, au bord de l'eau, j'ai vu des phytolacs. Il y a d'autres plantes encore et c'est un gros enchevêtrement. On ne peut pas trop descendre plus bas malheureusement parce que je pense que ça doit être un peu humide. Bon là on va aller le long de la Loire qui est dans cet espace où il y aura des voitures, mais qui est encore hyper sauvage. Tout ce long de Loire jusqu'au CHU, là on passe le pont et il y a toute une partie qui est laissée en friche. En fait, je sais même pas si de temps en temps ils coupent la ville de Nantes. Et voilà, il y a plein de plantes qui poussent sur cet endroit. On va voir ce qui reste après voilà, décembre, après 3 jours de gel. Alors voilà, il y aura des voitures. Donc on a quitté le trottoir et on est vraiment. Sur les bords, sur les chemins encailloutés.
On va s'en vaser.
On pourrait aller plus près du bord, mais on va s'en vaser. Donc on va pas risquer. On peut voir de loin, y a pas mal d'orties encore et de ronces. Hein. C'est pas étonnant. Surtout à cette période de l'année où tout est un peu mort. Il y a encore pas mal de sensons. C'est pareil. Hein. C'est des plantes qui devraient déjà être mortes. Et il y a encore des fleurs. Quoi. C'est ça qui est étonnant. Encore, et je vois, il y a pas mal de l'aquilée. De l'aquilée millefeuille en fleurs.
Alors, on essaie de voir
sur le bord de l'eau pour voir si on voit des bouts d'angélique. On ne sait jamais. On pourrait peut-être en voir. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que ces endroits-là, qui pourtant sont laissés en friche, sont beaucoup colonisés par les ronces. Alors, je ne sais pas si l'angélique peut pousser à l'endroit où il y a beaucoup de ronces. Ah,
c'est un...
Il y a un cormoran.
Ouais. Ah, un cormoran, c'est ça.
Ouais, il y a un cormoran, mais il y en a
il
beaucoup.
Il est beau.
Ouais, il y a beaucoup de cormorans, en fait, on ne se rend pas compte, mais à Nantes, il y a beaucoup de cormorans, et notamment du côté de l'Erdre. Donc, ça veut dire que quand même, il y a quand même du poisson dans l'eau, même en ville, puisque le cormoran se nourrit de poisson. Et c'est très beau à voir pêcher. Moi, j'ai déjà vu, ça m'est arrivé en bas de chez moi, là, au bas Chantenay, de rester, regarder le cormoran en train de pêcher, c'est un spectacle incroyable à regarder. Et beaucoup de ronces en fait.
Puis les ronces, c'est un peu dévastateur. Enfin, dévastateur, c'est un grand mot, mais pour les autres plantes.
En fait, les ronces, c'est des plantes pionnières. C'est quand il y en a plusieurs comme ça, des plantes qui sont pionnières. C'est elles les premières quand un endroit a été fortement abîmé. Par exemple, il y a eu ou tassé, ou il y a eu beaucoup de constructions qui ont été faites dessus, ou beaucoup de pollution. Ça fait partie des plantes qui sont pionnières. Alors, il y a les ronces, il y a les élantes, il y a les buddleias, il y a les phytolacs. Tout ça, c'est des plantes qui sont... Elles ont une raison. Elles viennent un certain temps pour stabiliser, pour rendre la terre plus meuble, pour apporter des aliments, pour que d'autres plantes, après, poussent. Le problème, c'est que si les endroits où elles sont systématiquement abîmées à chaque fois, bah, elles restent, parce qu'il n'y a que ça qui va pousser... Elles ne pourront pas préparer l'espace. Il faut qu'on leur laisse le sang aussi de préparer l'espace pour le reste, quoi, en fait, la terre, le terrain. Mais là, on voit, par exemple, qu'il y a de l'armoise, tu vois. Il y a plein d'autres plantes qui sont entre certains interstices. On voit, il y a du sainson. Là, je pense que c'est du Pado de Californie. Je ne sais pas ce qu'il fait là.
Il a beaucoup voyagé.
Voilà. Non, mais il y en a beaucoup. Il y a du fumeterre. Encore fleuri. Il y a du houblon encore, regarde. Là, je ne sais pas si tu vois.
Ah oui.
Comme ça, je n'aime pas l'odeur. Perso, je trouve que ça sent.
C'est étrange comme odeur.
Oignon ail, qui est assez. Il y a des gens qui aiment ça. C'est une plante médicinale, le houblon.
D'accord.
On s'en sert pas que pour faire la bière. Non, c'est une plante médicinale qui permet de se calmer et de dormir essentiellement. C'est une plante hypnotique.
D'accord.
On dit que faire des coussins de houblon, ça permet de bien dormir et de faire des beaux rêves.
Donc
oui, effectivement, je pense que l'angélique, on n'est pas du tout à la bonne période. Mais on a vu d'autres choses.
On a une corneille en face. Ou... Ah, s'envoler. Ouais.
Magnifique. Il y en a beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne les apprécient pas, mais c'est des oiseaux que j'aime beaucoup.
Ah ouais, c'est beau.
C'est des corvidés. Et puis, oui, c'est très territorial. Oui, des fois, ça fait partir les autres oiseaux. Mais c'est un animal tellement intelligent qui vit en famille. C'est étonnant pour des oiseaux.
C'est vraiment, je trouve ça vraiment très beau.
À côté de l'école d'architecture, en fait. Donc là, on
sur l'île de Nantes,
oui,
du coup.
À côté du coup. Donc on voit, on a traversé. Donc on voit que voilà, là, on est sur un terrain qui était plutôt aménagé, où a été planté du gazon. Et on voit que le gazon a été colonisé par plein de petites plantes, que ce soit du plantain, de la cardamine, des choses comme ça. Après.
Et il y a une odeur de Loire très prononcée,
ouais,
aussi.
Bah, parce que la Loire est très basse, donc c'est pour ça, en fait. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de choses, mais bon, c'est tout petit, quoi. On voit que je pense que ça doit être fauché régulièrement par ici, parce que les gens viennent s'installer l'été. Donc ouais. Je pense qu'on voit bien que c'est les bords de Loire qui sont fauchés. Donc, c'est moins fourmillant que de l'autre côté. Donc, c'est vraiment laissé en friche où il y a des ronces. Et on cherche la rue des Estuaires. Non, la rue de l'Angélique des Estuaires.
Ah oui.
Qui doit être là-bas.
La rue de l'Angélique des Estuaires qui n'est pas loin.
Ouais, on va quand même aller la voir. la connais, c'est une toute petite rue, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Hein. C'est en la cherchant qu'on a... j'ai vu que c'était celle-là.
Forte de ses 1000 km, la Loire est le plus long fleuve qui coule en France. Elle prend sa source dans le Massif central, se jette dans l'océan Atlantique avec l'estuaire situé à Saint-Nazaire. Fleuve le plus naturel de France car relativement épargné des rejets industriels et des aménagements, la Loire accueille une biodiversité unique. Elle compte notamment 103 espèces végétales et 107 espèces animales protégées au niveau national. Anguilles, saumons, carpes, sternes, hérons, tourbières, vasières et roselières. Les richesses naturelles de ce fleuve sont aujourd'hui menacées par la destruction des milieux naturels. Les villes s'agrandissent, les industries et l'agriculture se développent. Se pose alors la question : comment répondre aux besoins urbains tout en préservant la biodiversité rare de la Loire ? À Nantes même, en pleine ville, les bords de Loire abritent une plante protégée au niveau européen, l'angélique des estuaires. Un individu floral menacé qui n'existe que dans les grands estuaires du littoral atlantique, soumis à la marée. Depuis 2004, Nantes Métropole met en place des plans de conservation pour protéger cette angélique. Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Cécile Ménage, chargée d'études flore et habitat à l'antenne nantaise du Conservatoire botanique national de Brest.
Bonjour Cécile Ménage, vous êtes chargée d'études flore et habitat au Conservatoire botanique national de Brest. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre fonction ?
Je suis en effet chargée d'études flore et habitat, donc à l'antenne Pays de la Loire, hein, donc du Conservatoire botanique national de Brest. Donc au Conservatoire botanique, on travaille surtout sur des missions de connaissance de la flore sauvage et des végétations, des communautés végétales. Mais également évidemment des missions de conservation. Et là, on travaille en partenariat avec d'autres organismes, dont notamment le Conservatoire d'espaces naturels en Pays de la Loire.
Nous sommes venus pour parler de l'angélique des estuaires. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire cette plante physiquement ? À quoi ressemble-t-elle ?
Alors, l'angélique des estuaires, c'est une plante de la famille des apiacées. Donc ça, c'est le nouveau nom pour les ombellifères. Donc c'est une famille qui regroupe des plantes, dont certaines très connues, hein, comme la carotte sauvage par exemple. Donc ça fait des ombelles hein, de fleurs. Et donc l'angélique des estuaires, c'est plutôt une grande plante. Une fois qu'elle fait sa tige fleurie, elle peut aller jusqu'à 2,50 m de haut, parfois 3 mètres pour les plus grandes. Mais voilà, ça peut devenir très très grand. Il y a une autre angélique qui est beaucoup plus commune hein, que l'angélique des estuaires, qui lui ressemble quand même pas mal, c'est l'angélique des bois, hein, l'angélique sylvestre. Il y a encore d'autres plantes qui viennent aussi dans le même milieu qu'elle, hein, qui font partie de cette famille des apiacées. Et qui peuvent être un peu confondues avec elles, parce que c'est vrai que toutes ces plantes-là forment des fleurs blanches, hein, en général, des ombelles de fleurs. Voilà. La particularité de cette angélique-là, c'est qu'elle va vivre sur quelques années, en fait, entre 3 et 5 ans. Donc il y a une graine qui va germer, donc elle va développer d'abord des feuilles. Et pendant 2-3 ans, elle va être au stade végétatif, donc où elle aura que des feuilles. Et puis, au bout de la troisième et cinquième année, elle va produire une tige et une fleur. Et une fois qu'elle aura produit ses graines à partir de cette fleur, eh bien, elle va mourir. Donc c'est important de le savoir dans son cycle de vie. Une fois qu'elle produit ses graines, les graines tombent au sol, sont reprises par la Loire, puisque là, c'est une plante qui vit vraiment sur les rives de l'estuaire de la Loire. Et les graines sont emportées par le flot de l'eau et peuvent être redéposées ailleurs.
Donc, comme vous disiez, cette plante vit sur les bords de Loire. On en a beaucoup ici à Nantes.
Peut-être spécifier d'abord que c'est une plante endémique. hein, des estuaires de la façade atlantique française.
Est-ce que vous pouvez expliquer endémique, s'il vous plaît?
Oui, alors endémique, ça veut dire qu'on trouve la plante que dans ces endroits-là. L'angique des estuaires, c'est les estuaires de la façade atlantique de France, et c'est tout. Pour le moment, on ne la connaît que là, de par le monde. Et donc la question, c'était son abondance. Alors ça, c'est pas toujours facile à estimer, mais bon, on s'y intéressait hein, de près, puisque quand même sur l'estuaire de la Loire, bon, on a une forte responsabilité dans la conservation de cette plante hein, au niveau mondial, puisqu'on représente une part non négligeable de sa population mondiale. Et donc du coup, il y a eu quand même des inventaires faits sur l'ensemble de son aire de répartition, là, sur l'estuaire de la Loire. Donc bon, déjà, on sait qu'elle se répartit sur des berges là où la Loire, les eaux de la Loire sont pas trop salées. Un peu salées, mais pas trop. Donc ça veut dire qu'on la retrouve pas tellement à l'aval, quoi. On la voit pas à Saint-Nazaire, par exemple. Mais en même temps, on ne la retrouve pas non plus trop en amont, là où il n'y a plus du tout de sel dans les eaux. Actuellement, elle est connue en gros hein, sur 60 km de rive de la Loire, hein, de l'estuaire, entre en gros Cordemais pour l'aval et Mauves-sur-Loire, la chapelle Basse-Mer pour l'Amont. En termes de population, bon, ça reste quand même d'assez nombreuses stations hein, de cette plante-là dans cette aire de répartition. Et on a estimé, donc avec des inventaires un peu systématiques de toutes les stations là, sur cette aire-là. Donc il y a eu des inventaires qui ont été faits dans les débuts des années 2000 et qui ont été refaits là, en 2020. Bon, c'est des milliers de pieds hein, quand même, sachant que c'est dynamique, hein, d'une année sur l'autre, vous l'avez compris, avec le cycle biologique, ben, voilà, les pieds ils vivent quelques années, donc selon les années, bon, on n'a pas le même nombre de pieds qui vont germer. Ou quoi, voilà. On a estimé que cette population de l'estuaire Loire représentait un quart un peu de la population française, sachant qu'il y a quand même des gros contingents de population sur l'estuaire de la Gironde, en particulier un peu la Charente, etc. Mais en Gironde, ouais, il y a des grosses populations aussi. Dans les années 60-70, l'angélique des estuaires, elle était relevée plus à l'aval, au niveau de Paimboeuf, jusqu'à Paimboeuf, et elle remontait un peu moins à l'amont. Et ça, c'était en lien avec le bouchon vaseux. Vous avez sans doute entendu parler sur l'estuaire Loire, et donc une salinité qui remontait moins vers l'amont. Donc en fait, elle suit vraiment cette zone de salinité où elle trouve ses conditions pour se développer, quoi.
Et donc tous les ans, cette salinité, elle bouge un petit peu et vous voyez que ça se décale de plus en plus ou là, ça reste un peu plus stable?
Entre l'inventaire global là, qu'on a fait dans les débuts des années 2000 et puis celui qui a été reproduit en 2020, ben, on retrouve en gros cette même répartition-là. Il n'y a pas eu vraiment de migration et de remontée encore plus à l'amont de l'angélique. Donc voilà, on est assez stable dans ces 20 dernières années, quoi.
Comme vous disiez, il y a une des conditions pour qu'elle survive, c'est la salinité de la Loire. Est-ce qu'il y a d'autres conditions?
La salinité, ouais, des eaux un petit peu salées. Bah, le substrat, quand même, de la berge, elle va s'installer et se fixer dès lors qu'il y aura quand même un peu de vase, enfin de sédiments fins. Par exemple, sur la partie amont de son aire, on a quand même moins de dépôts vaseux, de sédiments fins. Et donc, du coup, on est sur des substrats un peu moins potentiels. Mais alors après, c'est vrai qu'elle peut s'installer sur des berges qui n'ont pas du tout été modifiées par l'homme. Donc ça, c'est sûr, elle peut vraiment s'exprimer de manière large. Mais elle arrive aussi à s'installer, bah, comme dans l'agglomération nantaise, au niveau de quais très artificialisés, dès lors qu'il y a des interstices, ou alors au niveau de gros blocs rocheux, dès lors qu'il y a des dépôts de vases possibles. Et là, elle peut germer et se développer dès lors qu'il y a un peu de sédiments qui lui sont favorables. Quoi.
Maintenant, tu as mis en place un plan de conservation pour l'angélique des estuaires spécifiquement. Pourquoi il y a besoin de ces plans de conservation? Qu'est-ce qui menace ces espèces?
Là, en l'occurrence, sur Nantes Métropole, c'est le développement urbain, hein, l'artificialisation des berges. Bon, on en a parlé. Bon, l'angélique des estuaires, elle arrive quand même à s'en sortir dès qu'il y a un petit interstice ou quoi. Mais bon, oui, le béton, hein, l'urbanisation, l'artificialisation des berges provoque quand même des conséquences, alors des destructions directes, hein, des communautés végétales, mais aussi va modifier les milieux et va favoriser des éléments perturbants, comme par exemple les espèces, quand on va vraiment aménager les quais, bétonner, on va plutôt favoriser des espèces qui vont se trouver en dehors, hein, de l'onde de marée, mais qui peuvent un peu concurrencer notamment l'angélique et les niveaux hauts, hein, de la berge, par exemple des ronciers. Dès qu'on artificialise, ben, on favorise ce type de développement, hein, de ronces. Et parfois, les ronces, elles retombent sur le haut de la berge. Elles peuvent concurrencer l'espace, hein, tout simplement, pour cette espèce-là. L'urbanisation va amener pas mal de plantes exotiques ou cultivées dans les jardins qui viennent... qui des fois s'installent dans les milieux naturels et perturbent, hein, leur développement, même concurrencent les espèces. Donc pas mal d'exotiques, certaines qui sont vraiment envahissantes et puis qui contrarient le développement, ouais, des populations. Pour donner un exemple, je ne sais pas si vous connaissez les renouées du Japon, qui sont très envahissantes, eh bien, qui viennent assez facilement sur les berges de Loire, en haute berge, juste au niveau des habitats de l'angélique des estuaires. Bah, là où il y a de la renouée, des gros fourrés denses, l'angélique ne peut pas s'installer, quoi, clairement.
Je voulais juste poser une question par rapport à la faune. Est-ce que l'angélique des estuaires, est-ce qu'elle favorise certains animaux?
Nous, on n'a pas étudié ça de près. Il y a sans doute d'autres spécialistes qui ont pu regarder ça. Mais en général, les ombellifères, elles sont très attractives pour les insectes. Quand on regarde une fleur de carotte ou même une fleur d'angélique des estuaires ou autre sylvestre, ben souvent ça bourdonne beaucoup là-dedans. Donc ça favorise les insectes, les pollinisateurs. Je ne vois pas d'autres animaux qui peuvent la consommer, mais en tout cas, c'est source de ressources alimentaires pour pas mal d'insectes, ça c'est sûr.
L'angélique des estuaires est cousine de l'angélique officinale?
Alors c'est l'angélique sylvestre, c'est pas l'angélique officinale, donc c'est pas vous pensiez à l'archangélica, donc celle-là elle est pas à l'état sauvage chez nous, hein, c'est une plante qui est introduite, cultivée, mais sur nos territoires, c'est pas une plante qui est spontanée.
D'accord, non, c'était juste pour savoir si elle avait des propriétés médicinales ou si on pouvait la consommer.
Je ne crois pas qu'elle ait des propriétés médicinales. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été étudié. La consommer non plus. Non, à ma connaissance, elle ne doit pas être consommable. Elle doit même être sans doute toxique. C'est vrai que dans cette famille de plantes, il y a des comestibles, hein, comme la carotte ou comme celle que vous citiez, l'angélique. Archangélique, voilà, mais il y en a d'autres qui sont très toxiques.
Pourquoi c'est nécessaire de sauvegarder une espèce en zone urbaine et pourquoi celle-là en particulier ?
Le seul fait de son endémicité, là, on a une forte responsabilité ici en Estuaire-Loire pour la conservation de la population mondiale, hein, de cette plante. C'est vrai que le centre, en gros, de son aire de répartition, il se trouve au niveau de l'agglomération nantaise. Et donc, les plus fortes concentrations de population se trouvent au niveau de l'agglomération nantaise et de Nantes Métropole. Donc, il était important de réfléchir réfléchir à un cadre pour accompagner le développement urbain de la métropole, mais sans impacter ou le moins possible les populations d'Angélique des Estuaires. Donc c'est une plante qui est protégée par la réglementation française, par la réglementation européenne aussi. Il y a un devoir de conservation de cette plante et donc de tenir compte de sa présence. Donc dans le cadre de l'urbanisation, quoi, de l'agglo. C'est pour ça que notre métropole dès les années, début des années 2000, a réfléchi à cette prise en compte et donc a mis au point ce plan de conservation. Et donc le Conservatoire botanique, on les a accompagnés sur cette démarche. Le plan de conservation, il est toujours... Il y a eu plusieurs versions, bien sûr, depuis le début des années 2000. Mais là, on est, je crois, à la quatrième version et on est en train de réfléchir avec Nantes Métropole à la prochaine version qui sera entre 2022 et 2000, pour les 10 prochaines années, quoi, en gros.
Donc, comme vous disiez, c'est un devoir de conserver l'Angélique des Estuaires en zone métropole, enfin à Nantes. Mais est-ce qu'elle a aussi un bénéfice sur l'écosystème global ?
Un bénéfice, c'est difficile de l'exprimer comme ça. Enfin, je pense qu'il faut réfléchir ce qui est un bénéfice en termes de biodiversité. C'est toute la communauté des rives de la Loire et de la partie estuarienne de la Loire, on a des communautés vraiment spécifiques, dont l'Angélique des Estuaires fait partie. C'est la biodiversité générale de la Loire qui est importante à conserver. Et c'est pour ça que le plan de conservation, dans les dernières versions, il a pris aussi en compte une autre espèce de la berge de Loire, spécifique aussi, qui est le cirpe triquêtre. Donc il lui se trouve plutôt, donc l'Angélique des Estuaires va se trouver dans le haut du profil de berge, vraiment sur les niveaux les plus hauts, soumis à l'onde de marée. Hein. On est vraiment sur ces communautés végétales qui chaque jour sont soumises à l'onde de marée. Alors l'Angélique, c'est pas chaque jour, c'est vrai, c'est plutôt, comme elle est vraiment en position un peu haute, elle est soumise à la marée... simplement au moment des grandes marées. Mais en revanche, donc le cirpe triquette, lui qui est vraiment à l'opposé sur la partie la plus basse du profil de berge, c'est aussi une espèce protégée qui est quand même moins rare, on va dire, et puis qui est pas simplement présente en estuaire Loire, elle est présente ailleurs dans le monde. Mais du coup, le plan de conservation a pris en compte aussi cette plante-là pour avoir une entrée un peu plus globale et un peu plus de prise en compte de cette communauté spécifique de la berge de l'estuaire de la Loire.
Préserver l'Angélique des Estuaires, oui. Mais pourquoi ? En dehors du fait qu'elle soit endémique, pourquoi préserver cette plante en particulier qui, a priori, n'a pas de propriété spéciale ? Nous avons également consulté Jacques Soignon, vice-président du Conservatoire des collections végétales spécialisées.
Bonjour, monsieur Soignon.
Bonjour.
Quel sens y a-t-il à préserver l'Angélique des Estuaires qui, a priori, n'a aucune propriété spéciale ?
L'Angélique des Estuaires fait partie des plantes qu'on considère comme rares, c'est-à-dire... qui n'existe sur la planète que dans des endroits très limités. Quelques petites stations sur les bords de la Loire au niveau de la région nantaise en particulier, un peu sur les estuaires de la Gironde également. Donc une plante véritablement qui a l'intérêt déjà tout simplement est une jolie fleur, une jolie plante de bord de rivière, mais au-delà de ça, qui a, comme toutes les plantes du monde, un patrimoine génétique dont il faut garder la trace. Et c'est aussi un sujet important puisque on voit que l'érosion de la biodiversité s'accélère dans le monde un peu partout et que chaque jour disparaissent des ressources végétales qui, aujourd'hui ou demain, pourront nous donner, évidemment, pourquoi pas des molécules nouvelles pour un usage éventuel pour l'homme, mais aussi pour d'autres usages, et que à ce titre-là, on se doit de préserver ces ressources à chaque fois que possible, et en particulier dans nos régions où on a quand même globalement éroder encore un peu plus la biodiversité qu'ailleurs en étant des grands bâtisseurs et des ficheurs en Europe. Donc on a une plante rare, une plante un peu unique, il faut vraiment y prendre le plus grand soin et demain peut-être ou après-demain des chercheurs trouveront pourquoi pas avec ces plantes-là des nouvelles ressources et des sources d'intérêt qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Et donc elle est un marqueur en fait de la dégradation du milieu dans lequel elle vit.
Alors oui, absolument, on peut considérer que quand on la voit, ça laisse qu'on a quand même réussi à maintenir un équilibre naturel. Sa disparition progressive, elle était liée essentiellement au fait d'avoir construit des quais en dur, d'avoir plutôt réalisé des berges de défense en pierre et en béton. Ça l'a fait plutôt disparaître. Et là, aujourd'hui, le fait de la retrouver laisse entendre qu'on a été un peu plus soucieux de la façon de d'aménager ces élevages. Et aujourd'hui, on la voit réapparaître aussi parce que, bien, du coup, les différents aménageurs ont pris ça en compte comme un élément d'aménagement important. Et au-delà de cette plante-là, ce sont bien sûr aussi souvent des animaux qui vont vivre en association avec elle. Donc c'est un ensemble d'un écosystème qu'on reconstitue qui va être favorable à, là aussi, accueillir une diversité bien supérieure à ce qu'elle aurait été si on avait gardé des quais en béton traditionnel.
Jean-Marie Pelt, pharmacien agrégé, botaniste, fondateur de l'Institut européen d'écologie à Metz, président d'honneur de la Société française d'ethnopharmacologie, va plus loin. Pour lui, chaque plante qui disparaît est le signe d'un milieu qui est dégradé par plusieurs facteurs. Pollution, pesticides, surexploitation, construction, bétonnage. Et de la nourriture en moins pour les pollinisateurs. Sans pollinisateurs, plus de fruits et de légumes. Il y a un exemple en Californie où il n'y a pas eu de pollinisation des amandiers. La production s'est effondrée et les prix se sont envolés. Or, Jean-Marie Pelt nous alerte en disant que ce sont les fruits et les légumes qui nous permettent d'être en bonne santé et lutter contre les pollutions et substances toxiques qui se trouvent dans l'atmosphère, l'eau et les aliments. Donc protéger une espèce en particulier, c'est sauvegarder tout un écosystème et plus largement la biodiversité. En Pays de la Loire, 30 à 50% des espèces sont menacées de disparition. En partenariat avec des structures naturalistes comme Bretagne Vivante, LPO et le groupe Mammalogique Breton, Nantes Métropole a sorti récemment un atlas de la biodiversité. Le but, rassembler les connaissances naturalistes sur 24 communes de la métropole dans un même document et s'en servir d'outils pour penser la biodiversité dans les politiques d'aménagement. Nous avons rencontré Florian Brémaud, chargé de mission biodiversité à Nantes Métropole, pour en savoir plus.
Bonjour Florian Brémaud.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission biodiversité à Nantes Métropole. Que recouvre finalement cette mission et quelle est votre activité?
Oui, on peut déjà peut-être partir d'une définition de la biodiversité, enfin assez rapide, hein, mais c'est l'ensemble du monde vivant. Et la mission de biodiversité à Nantes Métropole, c'est essayer de préserver cet ensemble du vivant, de le restaurer également. Après, il n'y a pas de compétences spécifiques de Nantes Métropole dédiées à la biodiversité. C'est plus une vision d'aménagement du territoire au global qui prend en compte tous les aspects, donc les aspects environnementaux. Cette mission a été développée par Nantes Métropole. Après, on a différentes politiques, une politique de connaissance de la biodiversité. Donc, c'est de ça qu'on va beaucoup parler aujourd'hui avec l'Atlas de la biodiversité. Après, on a aussi d'autres politiques de gestion de milieux naturels, de protection des milieux et puis de restauration aussi de certains milieux ou continuités écologiques.
Est-ce que vous pouvez nous chiffrer, nous donner un petit panorama de la biodiversité à Nantes?
Donc moi, je travaille sur l'ensemble du territoire de Nantes Métropole, donc sur les 24 communes, plus de 500 km². Donc effectivement, sur cette échelle-là, on est à 62% d'espaces naturels et agricoles. Donc voilà, Nantes Métropole, c'est une grande ville et une grande agglomération avec plus de 600 000 habitants. Mais il y a aussi beaucoup d'espaces bocagers, d'espaces de marais notamment. Et donc, pour décrire le territoire, nous, on dit souvent que Nantes Métropole, c'est un territoire d'eau et de bocage avec trois grands types de milieux importants, des milieux aquatiques liés à la Loire, à tous ses affluents, parce qu'on a beaucoup de rivières sur le territoire, des milieux humides, des zones de marais notamment, Ça aussi, c'est très important, c'est 17% du territoire. Et puis encore des zones de bocage encore préservées, un petit peu partout sur le territoire, mais notamment dans la zone nord-ouest, vers Sautron, Orvault, et qui va après en continuité avec le bocage de Notre-Dame-des-Landes.
Ce que vous appelez bocage, qu'est-ce que c'est ?
Il y a deux sortes de bocages, en fait, sur la métropole. Il y a un bocage alluvial, qui est lié directement à la Loire. Donc, c'est les marais de Loire, avec des grandes prairies, et puis des haies, où l'espèce principale est le frêne. Et puis, il y a un bocage de plateau, plus classique finalement dans l'ouest de la France, plutôt en hauteur et donc pas directement lié à la Loire, qui est composé de...
Vous nous avez parlé de l'atlas de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est, comment ça se construit, où on en est aujourd'hui? Est-ce que Nantes est en avance sur le sujet?
L'atlas de la biodiversité, donc à Nantes Métropole, il a démarré en 2018. C'est un gros travail, hein, ça a duré 4 ans, de 2018 à 2021. L'atlas, c'est d'abord un gros travail autour de la connaissance. Un premier objectif en fait, de l'atlas, c'est de rassembler, de coordonner, un peu d'articuler les différentes données, parce qu'il y a beaucoup de bases de données naturalistes. Donc de rassembler tout ça dans un seul et même endroit. Après, une fois qu'on a cette connaissance, le but c'est d'analyser en fait, ces éléments, ces données hein, qui sont assez brutes, pour en faire ressortir des enjeux de biodiversité. Donc synthétiser les choses et puis de faire connaître ces enjeux, ça c'est un deuxième objectif. Le troisième, c'est de, une fois qu'on a connaissance de ces enjeux, c'est de les préserver, de les protéger. Donc notamment pour que ça soit pris en compte dans l'aménagement du territoire au sens large. Mais voilà, quand on aménage un quartier, quand on crée une route, quand on crée une voie de tram ou quand on installe un agriculteur sur une zone qui peut s'être un petit peu enfrichée. Donc de prendre en compte la biodiversité à ces endroits-là. Et puis une fois qu'on a connu, qu'on a fait connaître, qu'on a pris en compte, cette biodiversité, elle n'est pas bien en point en ce moment. Donc le but, c'est de la restaurer aussi. Donc l'atlas, il permet de guider des actions de reconquête de biodiversité, c'est-à-dire de restauration de certains milieux, certains habitats pour certaines espèces, certaines continuités.
Nous avons imprimé une carte de synthèse qui est dans l'atlas du nombre d'espèces faunistiques depuis l'année 2000. Et on peut voir sur cette carte qu'il y a un grand nombre d'espèces qui suivent en fait la Loire et les bords de Loire. Est-ce que la Loire et ses bords en zone métropolitaine nantaise est une réserve majoritaire d'espèces, que ce soit animales ou végétales ?
Oui, tout à fait. Le territoire est traversé... par la Loire, hein, donc un des grands fleuves français, et un carrefour sur la Loire entre différentes influences. Donc il y a à l'amont, donc à l'est de Nantes, on est plutôt dans des parties de vallée de la Loire, voilà, alluviale. Et puis à l'aval, on est dans le domaine de l'estuaire de la Loire, qui est plus soumise à marée, avec du coup des écosystèmes particuliers qui se créent, notamment des grands marais. Il y a la Loire, il y a aussi les autres rivières. C'est une spécificité du territoire d'avoir une confluence de différentes rivières au niveau de la ville de Nantes. Donc avec l'Erdre qui vient du nord, avec aussi deux petites rivières qui restent assez naturelles sur le Sens et le Gèvre, qui sont des affluents de l'Erdre. Et puis au sud, la Sèvre nantaise également. Puis tout un réseau de petites rivières aussi liées finalement à la Loire ou à à ses affluents. Oui, effectivement, il y a une biodiversité importante liée à la Loire et à sa vallée. Y a directement le cours d'eau, avec de nombreux poissons, certaines espèces de plantes aussi qui sont directement liées à ça. Y a les berges, c'est un milieu aussi très important. On a parlé de l'angélique des estuaires. Il y a aussi des boisements alluviaux qui permettent d'avoir des continuités écologiques intéressantes. Et puis, la Loire, elle ne s'arrête pas à les mineurs et à ses berges. Autour du cours d'eau, dans des zones qui peuvent être inondées tous les ans ou tous les 10 ans, ou même un petit peu plus, y a des prairies humides. Donc ça, c'est des milieux très intéressants. Des zones de bocage alluvial, donc avec des haies de frênes notamment. Dans ces mêmes zones, un petit peu entremêlées, il peut y avoir des zones plus sauvages, de marais, de roselières, de mégaphorbiers. En fait, c'est des formations de hautes herbes. C'est tout ça qui participe à l'écosystème de la Loire. Et je rajouterai un point, c'est que du coup, la Loire elle traverse le territoire de part en part. La Loire est très importante pour les notions de continuité écologique. Les espèces, elles ont besoin de différents espaces, de différents habitats durant leur cycle de vie. Et en utilisant le corridor de la Loire, elles peuvent si elles n'ont pas tout ce qu'il leur faut à un endroit donné, circuler. Donc ça, c'est très important aussi parce que la notion de corridor écologique peut être aussi fragmentée par des infrastructures humaines.
Et est-ce que vous avez, parce qu'on parlait de l'angélique des estuaires au niveau de la flore, est-ce que vous avez des exemples concrets de poissons ou d'autres animaux?
Sur les poissons, en fait, on a notamment les poissons qu'on dit amphialins. C'est des poissons qui vivent en mer et qui se reproduisent dans les eaux douces. Ils ont vraiment besoin de la Loire et notamment des zones de l'estuaire pour circuler. On connaît bien l'anguille. Il y a aussi, par exemple, la lamproie marine qui a besoin de circuler pour aller se reproduire sur des zones en amont de la Loire. Sur la faune, il y a un autre exemple intéressant, c'est les mammifères semi-aquatiques. Des mammifères comme nous, mais qui ont besoin de l'eau et de se déplacer aussi avec l'eau, qui passent une partie du cycle de vie, de leur cycle de vie dans l'eau. Donc les principaux, c'est la loutre et le castor. Sur le castor, c'est vraiment intéressant parce que le castor, il avait complètement disparu de la Loire parce qu'il était chassé. Il a fait l'objet d'un programme de réintroduction dans les années 70 qui a bien fonctionné donc sur la vallée de la Loire. Il a été un petit peu sur toutes les niches écologiques où il pouvait, donc il s'est installé un petit peu partout, ça fonctionne bien. Et par contre, on pensait jusqu'ici qu'il était un petit peu bloqué pour aller dans l'estuaire. Alors la raison, c'est parce que le castor, il fait son terrier où il est accessible depuis la terre, mais avec toujours une sortie sous l'eau pour pouvoir fuir en fait s'il a un prédateur terrestre. Sauf que dans l'estuaire, il sait jamais si sa sortie est dans l'eau, pas dans l'eau, à cause des marées. Donc normalement, il est un petit peu bloqué pour sa colonisation dans l'estuaire. Et dans le cadre de l'Atlas et puis d'études de Nantes Métropole, on a montré que il y a un castor notamment au niveau de la commune d'Indre. Une unité familiale de castors, donc vraiment avec la reproduction, avec des petits. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a vu dans l'Atlas.
Le long des quais coule la Loire, qui a bercé mon cœur d'enfant. Mes illusions et mes déboires, mais aussi mes enchantements. Le long des quais coule la Loire, de Nantes jusqu'à l'océan. Et il me plaît souvent de croire qu'elle m'emporte au gré du vent.
Et l'action publique sur le domaine biodiversité, est-ce qu'elle est complète ou est-ce qu'elle dépend d'autres acteurs qui vont intervenir, les acteurs économiques, les particuliers, comment ça s'articule?
Il y a différentes façons de faire des politiques de biodiversité. Il y a des politiques de protection, donc d'air protégé, qu'on connaît quand même assez bien. À Nantes Métropole, on y participe aussi en sanctuarisant certains espaces, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire partout. Il faut prendre en compte aussi les activités humaines. Donc, il y a l'urbanisation ici, il y a aussi l'agriculture. Nous, on essaye de créer des outils pour que ça puisse être pris en compte dans les différentes facettes de l'aménagement du territoire. On travaille notamment beaucoup sur l'aspect urbanisation pour que quand on urbanise un espace ou réaménage un espace, on prenne en compte la biodiversité qui est déjà présente.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de territoire justement pour que ça soit plus concret encore?
Sur des projets urbains, donc des zones d'aménagement, des nouveaux quartiers. Nous, on va mettre à disposition les outils de l'Atlas de la biodiversité pour montrer les différents enjeux de biodiversité qui sont déjà connus. Donc ça permet de prendre en compte toute cette connaissance, parce qu'on est sachant, on a déjà beaucoup d'éléments qui ont été répertoriés. Après, ça exonère pas de faire des études réglementaires très précises et détaillées, donc notamment c'est des inventaires sur une année complète, donc on appelle ça des inventaires 4 saisons, sur tous les groupes d'espèces. Mais les éléments qu'on fournit, ils permettent de guider ces inventaires. Parfois, on passe à côté de choses. Là, nous, on sait déjà que telle ou telle espèce est présente, donc il va falloir la rechercher spécifiquement. Et donc, à la fin, on a une étude réglementaire qui est plus précise et qui prend mieux en compte la biodiversité. Donc, le but principal, c'est d'éviter les principaux impacts. Donc, c'est la connaissance pour l'évitement. Et puis après, dans certains aménagements, on détruit des parties de la biodiversité, mais du coup, on doit les compenser.
Cette étude réglementaire, elle est faite par les services de Nantes Métropole?
Alors, en fait, les études réglementaires, elles sont faites par le porteur de projet. Donc, souvent, dans des grands aménagements de quartier, c'est des aménagements publics. Ça peut être fait par le privé parfois, auquel cas c'est lui qui répond. Un gros sujet en ce moment, c'est la création de nombreuses voies cyclables pour permettre aux citoyens de se déplacer, notamment d'une commune à une autre, donc des grandes voies qui peuvent traverser des espaces naturels. Donc, par exemple, le but sur ces voies-là, c'est de ne pas trop impacter la biodiversité. Il y a des sujets liés au revêtement de la piste cyclable. Il y a aussi des sujets liés à la pollution lumineuse. Parce que normalement, une infrastructure cyclable à grande échelle, elle est éclairée. Donc, on essaye de trouver des solutions, peut-être par exemple des détecteurs juste au moment des passages et pas une pollution qui dure toute la nuit.
Comment vous intégrez les questions qui sont liées à l'adaptation au changement climatique, puisque les températures vont augmenter, augmentent déjà, des effets de réchauffement, des manques en eau. Donc, comment, dans votre mission, vous pouvez intégrer ça parce que ça touche la biodiversité?
Effectivement, donc nous, on travaille vraiment sur la biodiversité, sur le monde vivant. Donc le changement climatique est un des facteurs de pression sur la biodiversité. Il y en a d'autres. Hein. Les deux principaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas ceux-là, c'est l'urbanisation et l'agriculture intensive. Mais le changement climatique est de plus en plus fort et donc impacte de plus en plus la biodiversité. Pour la biodiversité, la meilleure manière de s'adapter, c'est d'avoir un écosystème fonctionnel. La biodiversité, elle est évolutive. Elle sait s'adapter elle-même et trouver des solutions elle-même. Donc ça, c'est déjà le constat de base. Donc nous, notre meilleure réponse à ça, c'est d'avoir des écosystèmes en bonne santé. Il y a des politiques publiques d'adaptation, notamment Nantes Métropole en zone urbaine, pour avoir notamment des îlots de fraîcheur plutôt que des îlots de chaleur. Nous, on pousse pour des solutions fondées sur la nature, notamment le fait de recréer des zones humides en ville, et puis bien sûr d'avoir de plus en plus d'arbres, mais pas n'importe quel arbre, des arbres d'essence locale qui sont aussi adaptés du coup à la microfaune locale et qui tiendront plus longtemps. Et effectivement, peut-être des essences qui utilisent un petit peu moins d'eau.
Vous parliez de l'agriculture intensive. Pourquoi ça menace la biodiversité? C'est par rapport aux pesticides?
Sur l'agriculture intensive, il y a plusieurs choses. Donc, c'est une agriculture qui a été mise en place à partir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a bien sûr les pesticides. Après, il y a toute la mécanisation aussi. C'est pas la mécanisation en tant que telle, c'est plutôt l'organisation qu'on en a fait après. C'est le fait de simplifier en fait le paysage, notamment en enlevant des haies, en enlevant des mares, en fait, en enlevant la diversité qui était dans ces espaces-là. Ça peut être aussi des drainages de zones humides. On a vraiment simplifié le paysage et du coup, on a une biodiversité.
Et dans l'année, est-ce que vous avez des moments justement pour sensibiliser le public, faire de la pédagogie, les inclure dans ce système d'évolution? Parce que c'est important que les habitants, les citoyens s'en préoccupent aussi.
Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de programmes menés par différents services de notre métropole ou des communes sur l'animation à la nature, à la biodiversité. Après, nous, plus spécifiquement sur l'Atlas de la biodiversité, on essaye de développer ce qu'on appelle des programmes de sciences participatives. C'est de la connaissance produite avec des groupes d'habitants. On va notamment lancer l'année prochaine un programme autour de l'alite accoucheur. C'est un petit crapaud qui est présent dans les zones urbaines, notamment des zones d'urbanisation ancienne. On a des vieux murs en pierre, on a des petits points d'eau. Et c'est une espèce qui est en déclin, mais qui est quand même assez présente sur la métropole. Donc là aussi, on a une responsabilité. Donc on monte ce programme avec l'association Bretagne Vivante pour mieux répertorier l'alite et mieux le protéger dans les zones où on le connaît.
Pour conclure, vous diriez que le plan biodiversité, si on peut l'appeler comme ça, à Nantes Métropole, ça s'améliore ou ça se dégrade, ou ça s'améliore dans certains secteurs et malheureusement ça peut se dégrader dans d'autres?
Alors, il y a deux choses là-dessus. Sur la biodiversité en général, ça se dégrade, hein, on le sait, ça se dégrade même très fortement. On a 30 à 50% des espèces qui sont menacées d'extinction dans la région Pays de la Loire. C'est l'échelle d'analyse pour un grand groupe d'espèces, hein, enfin pour de nombreux groupes d'espèces, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, la flore, les libellules, les papillons. Donc c'est vraiment tous les compartiments de la biodiversité qui sont en déclin. On a aussi des indicateurs qui montrent que ce déclin, il est plus fort dans les zones agricoles et dans les zones bâties. C'est des indicateurs liés aux oiseaux spécialistes de ces zones. Donc, des oiseaux spécialistes de milieux agricoles et de milieux urbains sont en plus fort déclin que des oiseaux plus généralistes ou des oiseaux qui sont spécialistes de milieux forestiers où là, la chute est un peu moins importante. Après, sur l'action publique, bah là, pour le coup, ça s'améliore parce que, justement, comme vous dites, on a la mise en place d'un vrai plan pour la biodiversité, ce qui est c'était pas forcément le cas à Nantes Métropole avant. Donc il y a une prise de conscience des élus sur le besoin de mener des politiques pour préserver et reconquérir la biodiversité.
Donc une prise de conscience des élus, c'est rassurant. Donc la mise en place d'un certain nombre de politiques et de financement quelque part pour que ça avance.
Pour la première fois dans ce mandat, Nantes Métropole, on va avoir un budget dédié à la restauration de la biodiversité. Donc avec notamment un premier programme qui va être lancé sur la restauration des continuités écologiques pour la loutre. La loutre, en fait, elle circule sur les berges de cours d'eau et sous certains ouvrages, donc des ponts notamment, elle ne peut pas passer sur les bords de cours d'eau parce que le courant est trop fort, par exemple. Donc dans ces cas-là, elle passe au-dessus de la route et elle risque de se faire écraser. Comme la loutre a un cycle de vie assez lent, quand on perd une loutre, on perd vraiment beaucoup de temps. Donc là, le but, on travaille en interne au service, avec le service ouvrage d'art de Nantes Métropole pour recréer ses continuités, donc c'est-à-dire lui créer des passages en bordure de cours d'eau.
Si vous aviez un appel à faire au public qui nous écoute, qu'est-ce que vous conseilleriez en la matière pour soutenir cette action de préservation de la biodiversité?
Sur la partie Atlas et connaissances, on va lancer des nouveaux programmes de sciences participatives, mais il y a déjà beaucoup de choses qui existent avec les associations. Et puis, tout un chacun peut aussi répertorier ce qu'il peut avoir, ce qu'il peut voir, en fait, observer dans son jardin, notamment, ou dans le parc à côté de chez lui. Il y a des applications très bien faites pour répertorier tout ça, comme l'application Naturaliste sur téléphone portable, où on peut très simplement indiquer qu'on a vu telle espèce à tel endroit et tel jour. Et donc tout ça participe à la connaissance globale du territoire, et nous on l'utilise après dans nos outils pour montrer les enjeux de biodiversité. Sur l'aspect agir proche de chez soi, dans son jardin partagé ou des choses comme ça, il y a aussi beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus, donc notamment à Nantes et Nantes Métropole, c'est le réseau Écopole. Il y a des petites formations, des animations pour savoir un petit peu quoi faire chez soi.
Merci Florian Brémaud.
Merci beaucoup.
Toutes les ressources de l'Atlas de la biodiversité sont disponibles sur le site de la Métropole. La préservation de la biodiversité est une préoccupation qui est de plus en plus prise en compte par les communes dans leur politique d'aménagement. Mais la destruction des milieux naturels n'est pas la seule menace qui plane sur la biodiversité. L'IPBES, groupe d'experts nationaux et guide du gouvernement sur ces enjeux, a identifié 4 autres menaces: l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes, les pollutions, le réchauffement climatique et la surexploitation des ressources. C'est déjà la fin de cette émission spéciale Loire et biodiversité en zone urbaine. Elle a été réalisée par Alexandra, Laurence, Luc et Mélissa. Le podcast de cette émission est à retrouver sur jetfm.fr. Tout de suite, le reportage de 5 minutes Pensée locale, le projet de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Bonne soirée sur JetFM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
C'est l'histoire d'un boulanger qui ne voulait pas laisser partir son apprenti guinéen, arrivé avec le statut de mineur non accompagné, mais obligé de quitter le territoire français à sa majorité. Un boulanger tenace, qui a fini par obtenir, début 2021, la régularisation de son apprenti motivé. Depuis, l'histoire de ce boulanger de Besançon a résonné dans la France entière auprès d'artisans qui ne peuvent pas embaucher les jeunes migrants qu'ils forment et accompagnent. Ainsi est née l'association Patrons Solidaires, l'une des premières antennes locales a été créée à Nantes dès novembre 2021 par une poignée de patrons décidés à défendre le droit au travail pour des migrants très impliqués dans leur parcours d'insertion. L'association compte aujourd'hui 43 adhérents sur la Loire-Atlantique. Margot Wolf est la déléguée territoriale de l'association Patrons Solidaires à Nantes.
Nous avons beaucoup à faire à des petits patrons, donc tous les métiers en tension qui existent, c'est-à-dire c'est les petits métiers de restauration, de boulangerie, mais ça va être effectivement de la précision, les plomberies de précision, mais il y en a toutes sortes en fait. Petits patrons donc qui ont un apprenti, ils ont formé cet apprenti pendant un an, deux ans. Cet apprenti devient un véritable partenaire au sens où le patron peut compter dessus. Et puis voilà, l'OQTF tombe, terminé, le patron se retrouve seul, il doit repartir à la case, rechercher un apprenti et redémarrer à zéro. Alors on intervient à partir du moment où le patron vient nous solliciter et nous on vient juste mettre le pied dans la porte du droit qui se ferme pour qu'elle ne se ferme pas complètement.
OQTF pour obligation de quitter le territoire français, faute de titre de séjour. Ces jeunes migrants devenus majeurs ne peuvent plus travailler. Une aberration pour Cédric Schneider, gérant de la société Confort Service à Saint-Herblain.
Quand on a des jeunes formés, qui veulent travailler, qui sont très bons au niveau scolaire et qui ont après une opportunité de trouver un travail avec leur patron, il faut les embaucher. On est dans une société en ce moment où on manque de main-d'œuvre. Il faut absolument que cette main-d'œuvre qui est formée puisse trouver un travail et pas qu'on la renvoie dans leur pays, quoi.
Le plus souvent, la régularisation se fait au cas par cas. Elle est soumise à plusieurs conditions comme l'ancienneté de séjour, un certain niveau de français ou ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Le délai pour obtenir une régularisation peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cédric Schneider souhaite recruter Demba Camara, migrant guinéen qu'il a formé. Face aux difficultés administratives, il a demandé à l'association Patrons Solidaires de l'aider.
Demba est arrivé chez nous en tant qu'apprenti à l'âge de 16 ans. Donc il a fait un apprentissage dans le paysage. Donc c'était un bon apprenti hein, avec un très bon résultat scolaire, très curieux sur le terrain, qui a énormément appris au niveau technique. Donc à la fin de son apprentissage, quand il a eu son diplôme en 2021, nous on devait l'embaucher après. Sauf qu'entre-temps, il a eu ses 18 ans et l'administration française a décidé de lui mettre une OQTF. Donc c'est une obligation de quitter le territoire français. Nous, on a été un peu désemparés, donc on n'a pas pu continuer son embauche pour ne pas être dans l'illégalité. On s'est mis en relation avec l'association Patrons Solidaires qui nous a permis d'entamer des démarches au niveau de la préfecture pour essayer de faire valoir les droits à Demba.
L'association s'appuie sur les conseils d'un avocat spécialisé et en un an a réussi à régulariser quelques apprentis en Loire-Atlantique comme Ibrahim, carreleur à Pontchâteau. C'est encore trop peu au regard des dizaines de demandes de soutien dans des secteurs qui peinent à recruter comme la restauration ou le bâtiment. Ibrahim Diallo, lui, est encore dans l'attente. Il a 20 ans maintenant et est électricien.
Je peux faire des stages, mais par contre, là, je ne peux pas travailler, malgré que là, j'ai des entreprises vraiment qui m'appellent souvent pour me demander comment ça va, est-ce que ma situation n'est pas toujours régularisée. Je leur ai dit non, toujours pas. Côté personnel, vraiment, j'ai envie d'être indépendant, en fait.
Un jeune formé et embauché, c'est un futur salarié qui va consommer sur le territoire et faire tourner l'économie. Il ne faudrait pas l'oublier, dit Stéphane Ravaclet, le boulanger de Besançon, créateur de l'association Patrons Solidaires, qui espère en cette année 2023 une évolution positive pour les apprentis migrants et les artisans patrons qui les attendent. Patrons Solidaires, c'est un reportage de Vincent Lepape et Johan Barcelo Moyano pour Euradio.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.